Le débrief 100% hack, le podcast sur l'actualité du Havre en Ligue 1.
La panenka d'Abdoulaye fait que ce match est pour moi rentré dans l'histoire du club.
L'espoir, moi, enfin, objectivement, je ne l'ai jamais perdu.
L'unité de tout un groupe, tout un club, ça génère justement la chance, comme on dit.
Hello les amis, la Ligue 1 de retour en ce week-end du 21 au 23 novembre, 13e journée après une trêve internationale qui aura vu le Congo de Lionel Mpassi se qualifier pour les barrages du Mondial et la Hongrie de Loïc Nego oublier ses rêves de Coupe du Monde. Et c'est un gros morceau qui se dresse devant le Havre, le PSG champion en titre et toujours leader. Ce sera samedi. Comme d'habitude, je salue mes compères journalistes Luc Gallet du Courrier Cauchois et Mathieu Billot de Foot Normand. Bonjour.
Bonjour tout le monde.
Salut tout le monde.
Et en attendant cette reprise du championnat, bien on fait un pas de côté dans le débrief 100% hack. On parle arbitrage aujourd'hui avec notre invité Frédéric Ortiz. Bienvenue.
Merci.
Et vous êtes donc salarié du HAC, directeur des opérations et aussi arbitre de ligue. 765 matchs au compteur. Avec vous, on va revenir sur les situations problématiques du début de saison, évoquer la VAR, l'arbitrage vidéo, mais aussi les solutions possibles pour limiter les conflits entre les joueurs, les coachs et l'homme en noir. Des débats qui sont aussi vieux que le foot. C'est parti pour le débrief 100% HAC, saison 2, épisode 6. Et en préambule de cette émission, ce chiffre évoqué par le compte X-Check VAR Ligue 1 qui élabore un classement de Ligue 1 corrigé en quelque sorte, le HAC aurait perdu 1,32 points à la suite d'erreurs d'arbitrage, troisième total le plus élevé après Lyon. 3,21 pour Lyon et Lille 1,51 points. On rappelle que le maintien du HAC l'année dernière s'est joué à 1 point la saison dernière, donc évidemment c'est important. On va revenir sur plusieurs situations qui ont entraîné du débat, on va dire, depuis le début de la saison, souvent en lien, je le disais, avec la VAR. L'idée évidemment c'est pas de pointer du doigt l'arbitrage, c'est plutôt de mieux comprendre. D'abord un cas précis, Didier Digard après le match OM-HAC le 18 octobre.
On parle pas avec les petits clubs, c'était déjà le cas à Lyon. Ils vont vous trouver l'angle où on pourra prouver que... Et ça nécessitait aussi d'annuler le carton jaune pour le mettre en carton rouge, au cas où... On ne sait jamais qu'en plus on puisse accrocher un nul, ce serait vraiment dommage. Apparemment, la règle le stipule. Personnellement, j'aurais aussi réclamé le rouge, mais c'est la manière dont ça a été fait. En fait, c'est ça qui me dérange. C'est ce comportement envers nous. En fait, c'est pesant, c'est fatigant.
Didier Digard qui évoquait donc ce pénalty assorti d'un carton rouge dès la 31e minute de jeu. C'était donc face à l'OM, une défaite 6 buts à 2 alors que les Havrais avaient ouvert le score au Vélodrome. Mais ce péno qui est venu un petit peu couper l'élan des joueurs havrais. Alors c'était pour une main de Gauthier Lloris, main dans la surface selon l'arbitre et après consultation de l'arbitrage vidéo. Mais le doute est permis selon, on va dire, les différents angles de caméra. On va expliquer aussi, il y a eu une histoire de double peine en quelque sorte. Frédéric, vous avez forcément votre avis sur la question et vous pouvez nous expliquer aussi ce qui s'est passé peut-être avec votre regard d'arbitre.
Oui, bien sûr. Il faut savoir que la double peine existe toujours en fait. Ça a été vulgarisé par les médias en disant il n'y a plus de double peine, c'est faux. La double peine existe toujours et dès l'instant, en fait, les lois du jeu précisent que dès l'instant que le joueur ne tente pas de jouer le ballon, on applique encore la double peine. Donc globalement, tout ce qui va être tirage de maillot, faute de main, on applique toujours une double peine. Et dans le cas de Gauthier Lloris, c'est une faute de main. Je disais en préparant l'émission, s'il avait taclé Aubameyang, on allait sur péno, carton jaune et il n'y aurait pas eu de débat. Là, c'est une faute de main, donc techniquement, la décision, elle est bonne. Après, on peut parler de comment on la vend. C'est vrai que le grand public ne comprend pas. Tout le monde aurait compris coup franc rouge. Tout le monde aurait compris pénalty jaune. Là, double peine. Techniquement, elle est bonne, mais elle est difficile à vendre.
Ouais. La double peine, c'est expulsion plus
pénalty.
C'est surtout après l'utilisation de la VAR qui pose vraiment le débat sur ce cas-là précis de cette faute de Gauthier Lloris, parce que la faute, elle est indiscutable. C'est le fait d'avoir consulté les images et de se dire on n'est pas sûr que ça soit dans la surface ou non. Et mine de rien, la décision, elle est ultra préjudiciable au final pour le HAC, qui avait le match en main et qui finalement va perdre lourdement sans être à 11 contre 11. Donc c'est plutôt là-dessus où je trouve que les critiques étaient fortes, parce que même après visionnage des images, on ne sait pas si c'est dans la surface ou non.
Alors que le bon sens, et je suis quasiment sûr que les consignes de la direction de l'arbitrage, que ce soit au niveau normand ou au niveau national, le doute doit toujours profiter à la défense. Et donc là, si effectivement, sauf si effectivement il y a un plan de caméra qui n'a pas été diffusé, et c'est possible, hein. Mais aujourd'hui, sur toutes les images qui nous sont parvenues et que nous, collègues, on a vues, bah, le doute reste quand même
et permis
très, très, très présent. Donc, dans le doute, on va pas au pénalty et on n'hypothèque pas un match dès la 30e minute, quoi.
Et juste une question, à votre connaissance, est-ce que justement, on parle des images qui sont visibles ou non, est-ce que dans le camion VAR, il bénéficie d'images que le grand public ne voit pas? Est-ce qu'il y a des images qu'on ne voit pas? Est-ce que ça, vous le
Alors,
savez?
Alors, le camion VAR dispose de toutes les images disponibles dans le stade. Ouais. Après, le VAR et l'assistant VAR choisissent les plans d'images qu'ils vont envoyer à l'arbitre du centre. Et là, en fait, c'est là où on peut avoir des fois le débat. C'est que forcément, selon le plan que je vais envoyer, bah, on le voit sur des, notamment des histoires de tacles. Si j'ai le plan par derrière, bah oui, c'est un gros tac par derrière, je vais aller au rouge. Si j'ai le plan de côté ou le plan de face, ça peut induire un petit peu en erreur, ou en tout cas orienter la décision de l'arbitre de centre, qui, je rappelle, est en train de courir à un match à la pression, là où les gens sont plutôt dans le camion. Enfin, c'est plus un camion, ils sont dans
mais
le centre.
Camion,
dans,
on est voilà, mais il y a plus de camion.
Voilà, il y a plus de camion.
On rappelle, c'est un mec sur le parking.
C'était à l'époque. Maintenant, c'est un centre-var à Paris. Ils sont dans le centre-var à Paris, où lui, en fait, il lance les images, mais ça peut avoir une influence finale sur la décision de terrain.
C'est pas le seul cas, hein, qui a été porté au débat cette saison.
Non, on en a choisi deux. On en a choisi deux autres. Voilà, donc il y en a un en faveur du hack et un en défaveur du hack. On peut éventuellement évoquer le deuxième cas qui est en défaveur du hack, et c'est cette action de la cinquième journée contre Lorient et ce but refusé de Yacine Keshta pour une faute supposée au préalable. Donc on va revenir avec Fred, justement, on ne sait pas si l'arbitre il siffle un contact d'Issa Soumaré ou d'Ali Samata, c'est pas très clair. Toujours est-il que l'arbitre siffle avant que le ballon soit rentré, c'est important de le préciser, et que sur cette action-là, du coup, la VAR n'appelle pas l'arbitre, mais je ne sais pas si dans ce cas de figure, d'ailleurs, la VAR peut le faire. C'est quoi votre point de
non,
vue,
alors,
Fred
ce que je regrette là-dessus, c'est qu'en fait, le collègue au centre siffle un petit peu trop vite avant que le ballon soit rentré. Si il choisit de ne pas siffler le contact d'Issa Soumaré, va au bout de la démarche, laisse le deuxième contact, faute pas faute, il y a but, on prend le temps, on check et on regarde. Là le problème, c'est qu'en fait il hypothèque toute possibilité de VAR, puisqu'en fait il n'y a pas de but. Donc pas de but, pas d'appel de VAR, pas de contrôle et
pas de possibilité de revoir les images.
Exactement. Et surtout pas de possibilité d'accorder ou non un but, puisqu'il a sifflé avant que le ballon rentre. Donc c'est un petit peu dommage. Je pense que tout le monde aurait compris. En tout cas, ça aurait été plus facile à vendre. Il siffle le contact sur Soumaré. Ça peut siffler, pas siffler, toujours le débat un peu, toujours l'appréciation de l'arbitre. Mais il siffle le premier contact. Il n'y a pas ce qui se passe après et il n'y a pas de débat. Voilà. Et bon, ok, tromper, pas tromper, ça peut siffler. Mais une fois que tu laisses, bah, va au bout de la démarche et après c'est peut-être l'assistant qui l'a appelé sur le avec l'oreillette sur le côté aussi. On saura jamais. C'est pour ça qu'il faut militer aussi pour plus de transparence. Je trouve que peut-être que vous allez en parler après, mais les analyses de la direction de l'arbitrage sont très bien, mais à mon sens, elles ne sont pas suffisantes. Et je pense que le grand public a besoin d'avoir plus d'analyses, plus de situations et de dire bon, ok, on s'est trompé. Ok, et c'est pas à remettre en question parce que aussi la direction d'arbitrage pourrait aussi le faire sur les joueurs. Hein. Bah ouais, il a tiré à côté. Ouais, il a raté un but tout fait. Ils sont en terrain d'arbitrage, mais voilà, ils sont humains. Ils font des stats quand on fait 15 km par match, X décisions à prendre par match. Il y aura forcément des choses qui n'ont pas allé. Et si on veut plus d'erreurs ou autre, et on met des IA pour arbitrer les matchs et puis on reste dans la tribune et voilà.
On parlera effectivement des solutions, mais pourquoi pas mettre un micro? Enfin, c'est délicat aussi. On se dit un mot peut être mal choisi.
Ouais, après il y a d'autres sports où les micros sont ouverts, on entend ça et je vois pas plus de polémique que ça. Au rugby, l'arbitre explique la décision. Alors forcément, il y a beaucoup moins d'arbitres de rugby que d'arbitres de foot, puisque n'importe qui avec sa bière dans son canapé le dimanche soir est arbitre de foot et connaît les règles, etc. Mais au rugby, bon. Savoir que le mec il a poussé du mauvais côté, c'est vraiment beaucoup plus technique. Mais je pense qu'il y a encore des moyens de pouvoir s'ouvrir en tant qu'arbitre et à tous les niveaux, et de façon à ce qu'on comprenne qu'on est tous dans la même famille, tous dans le même bateau, que pour la Ligue 1, pour le spectacle, plus les arbitres seront intégrés au spectacle et plus ce sera mieux pour tout le monde pour pouvoir vendre des droits de télé un jour peut-être. Et puis au plus petit niveau, aujourd'hui, quand un match passe mal ou que l'arbitre il a mis plein de cartons, faut pas croire qu'il est content en rentrant chez lui. Voilà, et on se pose des questions. Bah pourquoi, est-ce que c'est moi qui ai mal géré un truc ou autre? Enfin, je pense que les deux collègues voient suffisamment de matchs de régional ou même de national. Mmh. Aujourd'hui, quand un match passe mal, les arbitres se remettent aussi en question.
Mmh. On évoque ce troisième cas.
On fait la troisième séquence.
Ça, c'était contre Rennes, hein, cette fois-ci.
Non, coup, on a changé.
On a changé.
On a changé. On a voulu te prévenir, on te met des petits pièges comme ça. On est sympa. Mais c'est, voilà. Non, on est revenu sur le cas de la première journée contre Monaco et cette intervention d'Aruna Sanganté où il tacle dans la surface de réparation pour contrer le ballon, on précise bien, pas pour subtiliser le ballon à un adversaire. Et en taclant, en fait, il a le bras décollé du corps et le ballon est arrêté par le bras. À ce moment-là, du coup, l'arbitre ne siffle pas penalty sur cette action-là. C'est la J1, je précise bien, contre Monaco. Mmh. Fred, votre point de vue ?
100% penalty. Et pourtant, j'adore Aruna. Mais sur ce cas-là, on n'est pas dans le cas d'une main support. Hein. La main support, en fait, on ne siffle pas main dès l'instant que c'est la main où le joueur va tomber au sol. Et on est globalement sur un angle de 90 degrés. C'est-à-dire que s'il met pas sa main, il se casse la figure. Donc, on va lui accorder de mettre sa main. Là, Aruna, il tacle. C'est un tacle lissé. Il est lancé. Et il a la main carrément au-dessus de la tête.
Il étire clairement la main. Quoi.
Et en plus, quand on regarde le ralenti, il y a même un mouvement du bout de la main pour être sûr de toucher le ballon. Donc là, c'est du penalty à 100%. Et dans ce cas-là, c'est une erreur en faveur du VAR. Ça reste toujours une erreur, mais en faveur. C'est pour ça que le compte X, il faudrait aussi qu'ils mettent des choses qui n'ont pas été sifflées et qui auraient pu potentiellement impacter négativement le classement ou autre. Donc c'est toujours pareil. Moi, je suis de ceux qui sont convaincus sur une saison, ça s'équilibre. Il y a des situations pour et des situations contre. Après, je rejoins le coach Digard. C'est plus simple de siffler une situation quand on est Le Havre, Lorient, Angers, que quand c'est le match du samedi soir à Paris, à Marseille ou à Lyon.
C'est lié au prestige des clubs ou c'est lié aussi à la médiatisation de ces matchs?
Ah bah c'est la médiatisation. Quand Canal+ avait pris la Ligue 1, les arbitres disaient c'est génial, j'ai le match du dimanche soir avec les 24 caméras, la Spider Cam, etc. Oui, mais t'as aussi le match du dimanche soir avec tous les mecs de la fédération qui vont regarder le match et les mecs de l'équipe qui vont te fracasser derrière le lundi parce que te mettre ta note. Il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut avoir les gros matchs avec les grosses spécialisations, mais avec les gros retours s'il y a une erreur? Ou alors, effectivement, un Le Havre Angers va moins faire parler qu'un PSG Marseille, quoi.
Juste, on fait une petite aparté. On l'a dit, Fred, vous êtes arbitre au niveau régional. Quel impact peuvent avoir des fois les polémiques d'arbitrage au haut niveau, donc en Ligue 1, sur votre quotidien d'arbitre, sur les terrains régionaux? Vous avez aussi officié au niveau National 3, National 2. C'est quoi? Est-ce que vous avez des répercussions? Des fois, est-ce qu'on vous balance non, mais là, j'ai vu à la télé, il a pas sifflé comme ça. Qu'est-ce que tu me fais à me siffler ça?
Ça ruisselle, malheureusement. Ça ruisselle surtout le négatif. C'est-à-dire qu'on a des répercussions où, globalement, c'est les arbitres. Donc effectivement, le mec qui est fan de l'OM ou l'OM a une en Ligue des Champions, il n'y a pas eu pénalité. Ah bah vous les arbitres. Moi j'étais pas à l'OM en train d'arbitrer, désolé. Donc on va parler du match là. Et puis après on entend forcément tous les, je pense à la polémique avec Madame Frappard sur la faute où elle est assistante VAR. Oui, en fait c'est rouge tous les jours. Donc on l'entend. Ah bah ouais, c'est haut mais ça glisse. Mm-hmm. On nous met des petites cartouches après. Après, c'est aussi un sport populaire, donc on s'adapte, on en prend, on en laisse, mais c'est vrai que on a un peu les répercussions des fois du haut niveau, alors qu'on explique aux gens que en fait, c'est pas le même sport. Enfin, là, il y a un spectacle, il y a des enjeux financiers, il y a plein d'autres choses. En régional 1 ou national 3, c'est avant tout du plaisir, même s'il commence à y avoir un petit peu d'argent à ces niveaux-là.
Est-ce que vous ressentez un peu plus de pression, justement, quand on arbitre des matchs au niveau régional? Aujourd'hui ou est-ce que...
Je pense qu'il y a différents niveaux. Je pense que le haut niveau, il y a la pression, ils sont préparés, etc. À mon niveau régional national 3, on est prêt et on est encadré. Mmh. On a trois arbitres, on a un délégué. Globalement, ce sont les stades sécurisés, il n'y a pas de souci. Moi, je pense toujours aux collègues qui sont au plus bas niveau, sur les matchs de D1, D2, D3, où des fois ils sont tout seuls. Où là, pour le coup, il faut vraiment être costaud pour y aller, ou des fois sur des environnements un peu compliqués. Alors on dit souvent les clubs de quartier, mais je vais tordre un petit peu ça. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de clubs au fin fond de la campagne où c'est très compliqué d'y aller. Voilà. Et donc je voudrais surtout tordre un peu cette idée reçue que dans les clubs de quartier ça se passe mal. Non, il y a beaucoup de clubs. Je pense au Montgaillard où ça se passe très bien, même si beaucoup de gens ont le Montgaillard. Non, il se passe rien au Montgaillard. Par contre, je pense que tu es bien placé, Luc, pour savoir qu'il y a des fois des clubs dans le pays de Caux ou autre où c'est plus compliqué d'arriver, etc. Mais après, voilà, je pars du principe qu'on a l'arbitre du niveau auquel on joue. Forcément, on est en Ligue 1, on va avoir un mec qui fait 15 km, qui s'entraîne tous les jours, etc. Vous jouez en D4, vous allez avoir le mec qui aura pris sa bière la veille, etc. Vous êtes en R1, vous avez un arbitre comme moi, je sais pas si c'est bien ou pas bien, mais qui s'entraîne 3-4 fois la semaine, qui fait des analyses vidéo, qui essaye de travailler aussi là-dessus. Donc voilà, on a l'arbitre du niveau auquel on joue, et si on veut avoir Clément Turpin ou François Le Texier, faut jouer en Ligue 1.
Un petit mot, on parle beaucoup quand même de VAR, forcément. Avoir l'avis d'un arbitre quand même, pro ou contre la VAR?
Alors, à 100% pour la goal line. Je pense que ça, pour le coup, c'est un truc...
Débat, ça.
Ouais, j'y viens. Mais la goal line, pour le coup, ça, c'est impossible de voir. Assistant, central, barre, entrée, sortie, s'il n'y a pas une caméra, voilà. Le souci de la VAR, c'est que ça reste dirigé par des humains derrière, en fait. Donc, en fait, je pense que le process est très bien, mais encore une fois, comme je disais, selon l'image qu'on va envoyer à l'arbitre central, il y aura toujours une discussion, voilà, les images avec le PSG ou le Vitinha, faute pas avant, ou le VAR, ouais, peut-être faute, l'assistant VAR, non, pas faute. Il y aura toujours, dans l'instant qu'il y aura de l'humain, il y aura toujours du débat. Je pense que si on revient en arrière, je pense que la VAR corrige quand même quelques anomalies, et ça c'est important, notamment sur des tacles où ça va de plus en plus vite, en Ligue 1, ça va de plus en plus vite, où des fois on peut rater des tacles, des choses qui peuvent vraiment mettre en danger l'intégrité de l'adversaire. Là je pense que c'est une vraie avancée. Après il faut arriver à travailler avec la VAR. Moi je suis toujours surpris quand on sait qu'il y a la VAR et qu'en fait on arrive toujours à venir encercler l'arbitre pour mettre la pression. Mais en fait les gars, il y a la VAR. Donc
même lorsqu'il est en train de regarder les
images.
C'est ça,
aussi. Donc j'allais dire en anglais trust the process, mais faites confiance, et c'est pas la peine pour notre football, en Angleterre, hein. En Angleterre, ils viennent pas entourer l'arbitre, hein. Après forcément ils prennent 50 000 livres d'amende quand ils entourent l'arbitre, donc je pense que le trésorier du club vraiment il dit bon les gars, hein, restez en dehors, mais voilà, il faut qu'on arrive à se faire confiance, à être dans la même famille du football, et la VAR plutôt pour. Je pense que c'est une bonne évolution. Après il faut arriver encore à travailler sur les critères d'intervention, sur peut-être les gens aussi derrière la VAR.
Ouais, je voulais vous demander justement.
La fédération a intégré Mickaël Landreau dans le staff d'arbitre. Est-ce qu'à un moment, il faudrait pas aussi des joueurs ou des anciens joueurs de haut niveau derrière la VAR pour savoir est-ce que ça c'est un tacle de défenseur, un tacle d'attaquant, et peut-être que l'arbitrage s'ouvre aussi en ouvrant un peu ses process avec des gens qui sont pas forcément dans l'arbitrage, qui sont pas les techniciens de l'arbitrage, mais qui ont une connaissance du football et qui pourraient apporter un avis différent.
Est-ce que ça peut poser un problème que ce soit des arbitres derrière la VAR, donc qui aiguillent certains, enfin leurs confrères en fait? Est-ce qu'il ne faudrait pas que ce soit des gens neutres, peut-être le confrère de RMC, Jean-Louis Tour, évoquait la possibilité de mettre des techniciens purs et durs, hein, qui manipulent l'image en fait, qui la donne à l'arbitre, et puis après l'arbitre du centre se fait son avis en fait. Mais du coup, c'est pas un arbitre qui donne un avis à un autre arbitre.
Alors a priori ils sont trois dans la VAR, hein. Vous avez le technicien VAR, donc lui qui est un professionnel des images, etc. Vous avez l'assistant VAR et le VAR en titre, qui permet d'avoir une personne qui check les images, une personne qui laisse dérouler le match, puisqu'on peut, quand on est sur un ralenti, on peut pas regarder le match en direct, donc ça permet d'avoir du monde. Moi, je milite pour qu'il y ait effectivement des gens autres que l'arbitrage qui soient derrière la VAR aussi, qui puissent donner leur avis, des joueurs, peut-être des consultants ou autres, mais qui ait toujours cette démarche de dire à un moment, qu'est-ce qu'attend le football? Et c'est ce que nous dit notre formateur ici en Normandie, qui est Freddy Fautrel. Les gars, qu'est-ce qu'attend le football? N'allez pas chercher des problèmes là où il n'y a pas de problème. Voilà, aujourd'hui, il y a eu un but, personne n'a rien dit. But. N'allez pas chercher un truc qui n'existe pas, un potentiel hors-jeu. Qu'est-ce qu'attend le football? Vous devez être au service du football. Et j'ai eu la chance de barouder pas mal en Europe. Et il y a un formateur irlandais qui m'a dit un jour, rappelle-toi Fred, une chose, c'est que personne ne paye pour voir l'arbitre. Et je trouve que cette phrase, elle résume bien les choses en fait. On n'est pas là pour être au centre de l'attention, au centre du show. Ce sont aux joueurs de faire le match. Et aujourd'hui, personne ne paye pour voir l'arbitre. Et je trouve que ça résume bien l'idée. Si, et moi, c'est un peu mon leitmotiv. Si à la fin du match, personne ne parle d'arbitrage, et le week-end d'après, t'as eu qui comme arbitre, toi, à Bayeux? Ah oui, c'était l'autre du Havre, là, mais je me rappelle plus de ton nom. On a gagné. Ça veut dire qu'on est passé au travers du match. Voilà, on a... Et les joueurs ont fait le show, et ça m'a très bien comme ça. Des fois, malheureusement, je pense qu'il y a quelques arbitres qui veulent être un peu au centre de l'attention. C'est pas notre rôle. Et quand on parle de directeur du jeu, moi, je suis pas d'accord. Je pense qu'on doit être des facilitateurs, des accompagnateurs, mais c'est pas à nous d'être des acteurs de jeu. Voilà, c'est aux joueurs de faire la partition et à nous d'accompagner.
Et je termine juste sur la VAR, du coup, sur l'évolution qu'on pourrait amener. Là, on entend beaucoup parler de ça, en s'inspirant notamment du modèle du tennis, que les bandes touches et les coachs aient la possibilité d'eux-mêmes d'appeler la VAR sur une séquence qui n'aurait pas été le cas par le camion VAR, pour reprendre ces expressions-là. Alors, le fameux challenge, comme on dit au tennis, donc qui pourrait être un par match ou un par mi-temps, par banc. Qu'est-ce que cette idée-là vous inspire?
Alors, ça a été testé, a priori, à la Coupe du Monde U17.
C'est testé chez un peu chez les jeunes, du coup.
Ça a été testé chez les jeunes. C'est effectivement en test par la FIFA. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Je pense que c'est une bonne idée de pouvoir aussi délester un peu de responsabilité auprès des arbitres. Écoutez, vous avez un... comment ils appellent ça au tennis?
Un challenge, on dit.
Vous avez un challenge. Bah, écoutez, à vous l'utiliser. Voilà. Et on l'avait testé en, alors pas avec la VAR, mais en Normandie il y a 2 ans. On a fait une expérimentation où en fait on donnait la possibilité au coach d'appeler l'arbitre une fois par mi-temps pour se faire expliquer une situation. En gros, j'ai pas compris un truc, l'arbitre pouvait venir. Et en fait, ce problème, ça s'est retourné en, c'est moi qui l'ai testé, donc je suis bien placé pour en parler. Finalement, le coach m'appelle. L'arbitre pouvait venir, oui, je viens. Ouais, vous sifflez tout contre nous. Non, mais c'est pas ça l'idée. Je vous explique une situation. Non, mais là, vous sifflez tout contre nous. Bah non, c'est pas. Donc, en fait, on a arrêté parce que, en fait, si je suis la procédure, bah, j'ai mis un carton jaune. Et en fait, quelle image ça dégage? On m'appelle pour parler, il repart avec un carton jaune, ça n'a aucun intérêt. Mmh. Et je pense que pour le haut niveau, oui, avoir un challenge.
Sur une séquence
et dire,
précise,
voilà,
du coup. Voilà. Genre, une sorte, si on veut me caricaturer, il y a presque un buzzer où on dit, tiens, cette séquence-là, je veux que l'arbitre la revoie et m'explique, du coup.
C'est ça. Et se dire. Mais je trouve que, de l'extérieur, je trouve que notamment le banc du Havre est beaucoup plus serein cette saison. J'ai trouvé que l'année dernière on avait été très pas agressif mais très en pression. Alors forcément c'est leur métier. Je me mets pas à leur place, mais je pense que ça peut être frustrant de travailler toute la semaine et d'avoir l'impression de subir une injustice. Mais je trouve que les bancs qui sont sereins, bah les joueurs sont sereins et ça évite d'avoir, comme le début de saison dernière ou il y a 2 ans, avec un carton rouge par journée sur les 3 ou 4 premières journées. Et je trouve que ça, voilà, ça fluidifie l'équipe. C'est, je trouve qu'on a tout à gagner, en fait, à travailler ensemble, à communiquer. Je sais qu'il y a eu une réunion hier avec 9 clubs de Ligue 1 sur l'arbitrage. Bah, pourquoi 9? Pourquoi pas tout le monde?
Ah, je crois que tout le monde était convié, hein, je crois, ouais. si je me trompe pas, mais que certains ont refusé ou pas fait la démarche ou n'étaient peut-être pas disponibles.
Mais voilà, mais on l'a fait au niveau ligue, Freddy Fautrel l'a fait, en disant, bah, écoutez, on vous propose un début de saison, tous les clubs qui veulent, on vient dans votre club, l'arbitre fait la séance avec le groupe, l'équipe première, et derrière, on passe une soirée au club house à expliquer des lois du jeu, à échanger. Donc il y a 24 clubs de R1 cette année. Est-ce que vous savez combien de clubs ont répondu favorablement?
Moi, je crois que c'est 3, je crois, non?
J'allais dire 2. Moi.
1.
Ah, ouais.
La réserve du Havre. Parce que c'est moi qui fais la démarche. Et derrière, on entend les week-ends, ouais, les arbitres, vous vous mélangez pas. On vous fait la démarche, on vous envoie un courrier pour vous dire, on vient chez vous, on vient à vos horaires, avec un arbitre qui se déplace, qui fait l'entraînement avec vous pour vous dire, vous avez vu, l'arbitre, il court comme les joueurs, il s'entraîne. Et les clubs ne répondent pas. Donc c'est dommage, je pense que voilà, les arbitres, le corps arbitral doit tendre la main, mais les clubs doivent aussi prendre la main tendue et ça doit être
donnant. Même si je pense que cette initiative a renouvelé, parce que je sais que les clubs sont plutôt preneurs. Moi, j'ai l'exemple d'un club qui faisait appel à, donc c'est une arbitre du coup, c'était une jeune femme, elle faisait appel à ses services pour venir arbitrer les oppositions dans la semaine. Ça avait un double intérêt, c'est que du coup c'était plus quelqu'un du club qui le faisait et qui se faisait un peu pourrir, et du coup ça faisait une vraie répétition, parce que du coup la jeune femme en question, elle faisait un véritable arbitrage comme un match, et donc quand il y a des contestations, voilà, elle se faisait respecter. Ouais. Donc ça mettait vraiment dans le bain du match, et je pense que les initiatives là que vous venez de parler, même si elle a pas été couronnée de succès cette saison, je pense à mon avis que c'est à renouveler, parce que je pense qu'elle va dans le
mais entièrement, mais dans, le bon dans, dans les stades de l'équipe de France de rugby, il y a un arbitre
justement pour expliquer les règles, parce qu'ils étaient souvent pénalisés.
Non, mais voilà, c'est aujourd'hui, il faut qu'on travaille ensemble. Et je pense que demain, à terme, dans les clubs structurés, je pense qu'il faudra des consultants en arbitrage pour venir expliquer. Moi, je sais qu'il y a 2 ans, j'avais des collègues dans le staff pro. Ah, Fred, regarde, la séquence s'est fait enfler. Donc, on explique, etc. Et en fait, bah, si vous êtes quelqu'un au quotidien ou sur le banc de touche, pas loin du banc de touche, non, les gars, là, faut pas y aller. Là, il a raison. Voilà. Oui, Gauthier Loris, c'est dur. C'est le règlement, c'est comme ça. Ou, à contrario, bah, je suis entraîneur de Lorient. Mais non, les gars, faut appuyer, hein. Là, il y a Manaruna. c'est pas une main support. Là, il y a main de Sanganté. Ça peut aussi, voilà, il faut qu'on arrive à s'intégrer, à trouver des liens entre les différentes familles du football.
Eh ben, on va continuer justement à parler de solutions potentielles.
Je pense qu'avec le carton blanc, ça sera beaucoup plus efficace. C'est un peu comme ce qui se passe au rugby. Plutôt que d'exclure un joueur avec un rouge ferme et définitif, bon, le gars rentre au vestiaire et il ne revient plus, et il est sanctionné le match suivant, et bien là, le gars, il prend 10 minutes, il reste sur le banc, et puis il peut revenir. Et c'est très efficace. Parfois, moi et mes amis, il m'arrive d'aller voir un coach que je connais très bien. Je lui dis, écoute, ton joueur, là, bah, il faut que tu le calmes, parce que sinon, il est déjà averti, la prochaine fois, il va sortir. Et qu'est-ce qu'il fait, alors, le coach? Il sort son joueur, il sort 10 minutes, un quart d'heure, le temps que le joueur se calme, et quand il revient, ça se passe vraiment mieux.
Dans le débrief 100% que vous venez d'entendre, Rachid Chebli, président de l'Association des arbitres de Seine-Maritime, c'était en juin dernier. À notre micro, il réagissait aux mesures proposées par la Fédération française de football et son président Philippe Diallo pour lutter contre les violences et les incivilités. Alors là, on parle de championnat amateur. Il évoque le carton blanc qui permettrait donc une expulsion temporaire. Je crois que ça va être d'ailleurs en test, je ne sais plus. Est-ce qu'en pro, c'est un système qui vous semble, par exemple, intéressant, Fred Ortiz, sachant qu'il y a peut-être moins de confrontations aussi fortes, je ne sais pas. Mais voilà, est-ce que votre avis sur ce
le carton blanc,
on va en parler on va parler éventuellement d'autres solutions après.
Le carton blanc est mis en place en Ligue de Normandie pour les jeunes, avec une contrainte, avec plusieurs contraintes. Un, c'est que souvent ce sont des matchs où l'arbitre est jeune, où il est tout seul, donc il doit gérer à la fois ses 40 ou 45 minutes, plus les 10 minutes ou 8 minutes d'exclusion temporaire. Donc vous doutez bien que les gens sur les bancs, quand vous êtes éducateur, c'est pas de problème, les pseudo-éducateurs, au bout de 6 minutes, c'est l'arbitre, le temps, et ça pose une contrainte en plus. Deuxième chose, l'idée de base, elle est très bien. Et encore, c'est pour certains types de cartons. Tu sors, tu vas te calmer 10 minutes. En réalité, ce qui se passe, c'est que soit vous avez le bon éducateur qui va expliquer à son joueur, bah, regarde, tu nous pénalises parce que tu as fait ça, ça, ça. Voilà. Mais vous avez aussi d'autres pseudo-éducateurs qui, pendant 10 minutes ou 8 minutes, vont remonter leur joueur à bloc. Ouais, mais maintenant, quand tu vas re-rentrer, faut y aller. Et en fait, du coup, on perd tout l'intérêt du fait de redescendre 10 minutes. Donc, c'est comme tout. À la base, je pense que c'est une très bonne idée. Encore faut-il gérer le temps et savoir qu'est-ce que les encadrants font pendant ces 10 minutes pour pouvoir canaliser ou pas le joueur, expliquer ou autre. Après, sur le haut niveau, le carton blanc, j'y crois pas plus que ça. Parce que on voit déjà sur les temps de jeu, ça veut dire que je vais être réduit à 10 pendant 10 minutes. Donc pendant 10 minutes, bah, je vais prendre tout mon temps sur les touches. Bah, là où on veut fluidifier le jeu et augmenter le temps de jeu effectif, j'ai peur que ce soit contre-productif. Et finalement, à 10 contre 11, vous n'allez pas jouer 10 minutes, vous allez jouer 2-3 minutes.
Bon, ça marche quand même, par exemple, au handball, il y a des exclusions temporaires, mais qui ne sont pas liées au comportement.
Alors, on est sur une faute. La différence, c'est que tu peux pas gagner de temps vu que tu arrêtes
voilà,
le chrono.
C'est ça.
Et puis, au handball, il joue à combien?
Donc,
vous retirez un joueur, ça fait une grande différence. Le rugby, un joueur en moins, ça fait aussi une grande différence parce que sur la fin des alignements ou autre, on voit qu'il manque un joueur.
Ouais, surtout sur les mêlées, les séquences comme ça, quand vous enlevez un avant, ça vous pénalise. Vous avez 120 kilos de moins dans votre mêlée, donc vous sentez quand vous poussez qu'il manque quelque chose.
Les conséquences sont plus grandes, notamment en handball aussi, avec une joueuse ou un joueur de moins.
Au futsal, il y a aussi plus le carton rouge, il joue à un de moins pendant 2 minutes. Au futsal, vous jouez à 5, vous retirez un joueur. Enfin, vous prenez l'eau, tout de suite.
On parlait des contestations tout à l'heure des joueurs qui entouraient les arbitres. Pareil, si on peut s'inspirer d'autres sports, et notamment, est-ce que le fait de trop de contestations, tiens, le coup franc, il était là, finalement c'est 5 mètres plus loin, 10 mètres plus loin, est-ce que ça pourrait être une idée qui pourrait mettre un petit peu un terme aux contestations en disant, non, les gars, là, vous contestez trop, on avait dit que c'est que l'arbitre qui vient, ok, on gagne 5 mètres, on gagne 10 mètres. Et ton coup franc à 40 mètres, ça devient un coup franc à 30 mètres. Et ta genouille en face, ça fait lunettes, quoi.
Et du coup, qu'est-ce qui se passe si le coup franc il est à 20 mètres et qu'on avance de 10 mètres, on fait pénalty? Encore une fois, c'est toujours pareil. Je sais que ça se fait au rugby, ça parle, tu prends 10 mètres dans la vue, etc.
Ouais.
C'est compliqué à mettre en place au football. Parce qu'encore une fois, vous allez avoir aussi, c'est toujours pareil, l'arbitre du niveau auquel on joue. Donc vous allez avoir des arbitres peut-être en district, où il va y avoir deux joueurs qui vont venir, ils vont se sentir agressés tout de suite, et voilà, bim, 10 mètres. Et puis, forcément, plus on monte, moi, ça ne me dérange pas d'avoir des joueurs qui m'entourent, dès l'instant que c'est pour parler. Vous venez, on échange, il n'y a pas de souci. Après, forcément, tu fais 40 mètres pour venir m'agresser, verbalement, non, bah, tu vas prendre ton carton et tu vas repartir. Mais encore une fois, c'est pareil, ça va être le ressenti de l'arbitre, à quel moment je me sens. Et il y a aussi des arbitres, quand j'ai travaillé au district, on avait des vidéos. Mais tu t'es pas senti agressé là? Bah non. Et en fait, à la vidéo, en fait, y a tout le monde l'entoure, etc. Ouais, mais j'étais tellement dans mon match que j'ai même pas vu que. Mais on peut trouver des solutions. Après, là, on applique le protocole sur le capitaine. Aujourd'hui, seul le capitaine peut venir. Je pense que beaucoup de collègues l'appliquent. Et c'est très bien. Ça, on fait comprendre à leurs capitaines qu'ils ont une responsabilité, qu'ils ont des devoirs en plus. Et que c'est à eux, bah, à la fois, de venir pour échanger, mais surtout de faire le ménage. Mmh. Donc, les gars, voilà. Et je trouve que pour le coup, Arouna le fait très bien, en tant que capitaine, de dire laissez les gars, je gère. Je vais gérer, voilà. Et ça permet de. Derrière, de détendre un peu des situations où des fois, forcément, quand vous avez six mecs qui vous braillent autour, bah, vous n'avez pas envie d'écouter. Hein. Donc ça permet de fluidifier un peu les échanges et je trouve que c'est mieux aussi pour l'image de notre sport.
Les mains, on en parlait tout à l'heure.
J'allais dire, est-ce qu'il n'y a pas aussi une piste là-dessus pour améliorer peut-être un petit peu bah, voilà, la tâche des arbitres, de clarifier peut-être certaines règles, notamment sur les mains, justement. Est-ce que... Une bonne fois pour toutes, on dit, bon, bah, il y a main, qu'elle soit volontaire ou non, on la sanctionne.
Ah, mais le problème, c'est que plus l'IFAB clarifie, et moins c'est clair.
Ah oui. le mec qui comprend le texte, franchement, il est costaud.
C'est l'IFAB qui fait les lois du jeu pour le monde entier. Moi, j'en ai parlé pas plus tard que ce week-end, il y avait une formation d'arbitre à la Cave Verte, faite par Pierre Tablé. Le jour où on mettra, c'est très simple. La main, elle va du bout du doigt jusqu'au bas de l'aisselle. Ça touche la main, c'est faute. Volontaire, pas volontaire, tant pis. Je te tire dessus, ça tape là, c'est faute. Tant pis. Ce sera simple.
Mais pour tout le monde.
Ce sera simple pour tout le monde. On risque d'avoir des matchs qui vont se terminer à 7-6 parce qu'il y aura 12 pénalties dans le match. Mais au moins, ce sera clair pour tout le monde. Là, enfin, mettez-vous à la place de l'arbitre. Hein. Quand ils ont la barre, déjà, c'est plus compliqué, c'est plus facile. Mais vous n'avez pas la barre, vous êtes en Ligue 2. Il faut savoir si la main elle est décollée, si elle a un impact, si c'est le mouvement naturel, si le mec s'est tourné à vitesse réelle.
Il y a tellement de paramètres que du coup pour l'arbitre ça devient compliqué.
Ah bah c'est ça. Bah, enfin, je pense que Mathieu il a les lois du jeu, c'est-à-dire qu'on peut faire une checklist. Alors ça j'ai. Ah bah non il manque pas ça donc ça va pas faire pénalty. C'est pas possible. Il faut arriver à simplifier des fois les règlements, à les vulgariser, à les expliquer aussi. Voilà, mais de faire des choses plus simples parce que là, bah oui Arouna dans la surface c'est pénalty tous les jours. Voilà, mais
et surtout le sentiment de se dire, on dit c'est souvent, ah oui, les petits clubs sont pas arbitrés comme les grands et tout. Plus la règle est simple, plus les clubs sont censés être sur un pied d'égalité à ce niveau-là, en fait.
Il y a 4-5 ans, je sais pas si vous vous en rappelez, le leitmotiv de la DA, c'était les duels aériens, les coups, les machins. C'était très clair. C'est simple. Je saute, je mets le coude, c'est rouge. Alors effectivement, il y a eu 3-4 journées, il y a eu des rouges à tout va. Et après, tout le monde a compris. Le règlement, c'est simple. Je saute. Si j'ai le coup de crayon comme ça, je prends rouge. Donc les mecs, ils font quoi? Ils sautent plus, voilà. Le problème, c'est que là, sur les mains, on voit des aberrations psychomotrices. Les mecs, ils défendent avec les mains dans le dos, comme ça. Mais ça ne ressemble à rien. Et en plus, on arrive encore à avoir un défenseur qui défend les mains dans le dos, à qui on siffle penalty.
Mais qui se tourne, du coup, des fois.
Qui se tourne, et du coup, c'est plus une position naturelle, et on siffle penalty. En fait, on est sur une aberration complète. Laissons les joueurs évoluer de façon naturelle. Et adaptons le règlement par rapport à ça.
Après, vous parliez de l'IFAB. Pour faire changer, pour instaurer une nouvelle règle, pour, voilà, c'est très long, très compliqué.
C'est très simple, il faut qu'il y ait une polémique. On a changé. L'IFAB a changé la règle sur le hors-jeu. Pourquoi ils ont changé ça? Parce que Ligue des Nations, France-Espagne, Mbappé marque un but alors qu'il est hors-jeu. Mais parce qu'à l'époque, toucher le ballon, ça remettait en jeu l'adversaire. Et en fait, maintenant, toucher le ballon, ça doit être Piqué qui tacle. Piqué, il tacle, il touche le ballon d'un millimètre. Ouais, mais on a appliqué la loi. Il remet en jeu. Donc maintenant, c'est, on va dire, plus simple. Il faut que le joueur ait le contrôle du ballon pour remettre en jeu l'adversaire. Voilà. Mais parce qu'il y a une polémique. Si ce but-là, il arrive sur, avec tout le respect que j'ai pour eux, Albanie, Moldavie, l'IFAB, il change pas la loi sur leur jeu. Mais là, Ligue des Nations, France-Espagne, ça fait du bruit. C'est médiatique. Donc on est sur un environnement, voilà, médiatique avec, etc. Si c'est quelque chose dont tout le monde s'en fiche, on ne change pas la loi. C'est malheureux, mais c'est comme ça.
Vous évoquiez tout à l'heure les notes aussi attribuées aux arbitres. Alors, c'est le cas peut-être aussi dans la presse, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a un classement, c'est ça, des arbitres aussi.
Alors nous, à notre niveau, on a un classement, c'est-à-dire qu'on est noté 3 fois par saison. Donc 3 fois, on a un observateur qui vient observer la performance qu'on fait. À titre personnel, j'en ai déjà parlé à Freddy Fautrel, je milite pour plus. Parce qu'à un moment, sur 3 matchs, quand vous faites 30 matchs ou 40 matchs dans la saison, c'est pas beaucoup. Après, c'est une question de moyens. Hein, et les gens, il faut les payer, il faut disponibilité, etc. Mais je pense que si on arrive à être vu 5-6 fois, ce serait mieux, et même les clubs seraient plus demandeurs. À haut niveau, simple, ils ont des contrats. Ils ont des contrats, ils sont, c'est leur métier. Voilà, même si d'autres ont d'autres métiers à côté, mais c'est leur métier. Donc, si à la fin de mon contrat, j'ai pas été suffisamment bon, je descends et autres. Donc, c'est un métier.
Est-ce que ça instaure pas quand même un climat un peu négatif, cette espèce de note? Parce que oui, effectivement, ceux qui ont les plus mauvaises moyennes à la fin de la saison donc sont rétrogradés dans la division inférieure, et inversement, les meilleurs, voilà. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen, peut-être... Est-ce que ça instaure pas un peu un mauvais climat? Est-ce que ça donne pas aussi raison au club, des fois, quand ils se plaignent, qu'ils vont se dire « Ah ben tiens, regarde, Jean-Michel, il a été rétrogradé, il m'a arbitré 5 fois, je t'avais bien dit qu'il était nul ».
Après, les équipes sont promues ou rétrogradées aussi. Il n'y a pas de raison que les arbitres soient pas dans le même système.
Ça vous choque pas
Non,
plus que ça
me choque pas. Alors, le système a changé en Normandie. Il n'y a plus de notes, en fait. C'est-à-dire que vous avez un observateur qui a un groupe. Nous, on est deux groupes de 12 arbitres. Trois observateurs qui vont voir les 12 arbitres. Et à la fin, je mets mon classement. Lui, j'ai trouvé super bon, il est premier. Lui, il n'a pas été bon, je le mets 12e. Les trois se mixent et ça fait le classement au final. Ça évite d'avoir des notes qui ne ressemblaient à rien. C'est-à-dire que comment je sais que le mec, il a 16-20 et l'autre, il a 16-25? Aucun intérêt. Donc là, c'est un classement au rang. Et puis à la fin de saison, c'est le jeu. Il y en a qui vont monter, il y en a qui vont descendre. Mais comme les clubs. Et je pense que c'est important aussi que les arbitres se rendent compte qu'ils sont sur un écosystème. Et que, oui, alors je peux m'en fiche. Hein. J'ai mis pénalty contre Bayeux, mais m'en fiche, je vais pas aller revoir de la saison. Ouais, mais peut-être que ce pénalty-là, il va faire descendre Bayeux. Peut-être que le coach, il va perdre son job. Peut-être que les joueurs, ils vont partir. On est aussi sur un écosystème, mais il faut qu'on intègre ça. Aujourd'hui, on est sur un niveau R1, N3. Où il y a peut-être des contrats fédéraux, il y a peut-être des salariés qui jouent des fois leur job chaque week-end. Et il faut que nous, on soit le meilleur pour impacter le moins possible les rencontres, ou alors les impacter positivement. Parce que là, effectivement, on check les erreurs de VAR. Mais il n'y a aucun compte qui check les avantages buts. J'ai falsifié juste l'avantage, ça finit un but. Ou les bons, ce qu'on appelle le game management. Il y a ça aussi, tout ça, c'est de l'invisible. Et c'est comme la SNCF, hein, on ne parle que des trains qui arrivent en retard. Mais il y en a beaucoup qui arrivent à l'heure.
Il y en a beaucoup qui arrivent en retard quand même. Je n'aurais pas. Peut-être que vous avez des actions à la SNCF.
On va pas parler de la ligne Le Havre Paris. Mais voilà, je sais qu'il y a d'autres lignes où les trains arrivent à l'heure.
L'arbitrage se porte mieux que l'état des.
Alors pour être tout à fait honnête, quand j'ai baroudé un peu toute la France, je ne partais jamais en train.
Parce que sinon, le coup d'envoi.
Voilà,
je reviens juste quand même sur le. Par rapport au système de notes, quand même, ça a des enjeux aussi très importants quand même pour les arbitres. On disait donc. La plupart, ils sont pas arbitres professionnels à 100%, mais souvent sont en disponibilité de leur emploi. Je crois que c'est 45 ans la date limite pour arbitrer en Ligue 1.
Il n'y a plus de limite d'âge, c'est illégal.
C'est illégal, d'accord, ouais. Ok. Mais on voit rarement des arbitres quand même pour des questions physiologiques.
Vous avez Rudy Buquet qui est remonté cette année en Ligue 1, qui doit avoir pas loin de 50 ans.
Ah, d'accord, ok.
En Ligue 2, Mickaël Lesage, qui était normand, qui doit... Ouais. Pareil, pas loin de la cinquantaine, vous avez encore des...
Parce qu'il y a un enjeu financier quand même, parce qu'il y a forcément les arbitres sont rémunérés, et de manière bien logique, quand vous êtes arbitre de Ligue 1, c'est pas une petite rémunération, mais c'est encore une fois, c'est bien logique, c'est à la hauteur du niveau auquel vous arbitrez, mais du coup, être rétrogradé d'une division, ça a un impact, parce que votre rémunération, eh ben, c'est pas un petit peu. Donc, toujours été ce système de classement, alors même si effectivement, il faut bien promouvoir et tout, mais... Bon, est-ce que ça met pas quand même un
est-ce
climat
que,
négatif
est-ce qu'un joueur qui joue en Ligue 1, qui est pas bon, qui est en fin de contrat, il va retrouver un contrat? Si t'es pas bon, tu vas galérer à retrouver un contrat. Encore une fois, c'est faut accepter les règles du jeu. Ou alors, faut être comme moi, on reste en régional 1, on joue la montée, la descente, et puis voilà. On est au niveau, on a des avantages, on a aussi d'autres contraintes, et je pense qu'il faut les accepter. Voilà, ceux qui sont internationaux, oui, effectivement, je pense qu'ils sont pas souvent chez eux. Parce que quand vous êtes le mardi soir à Madrid, vous faites quatrième en Ligue 1 derrière, vous repartez en stage l'UEFA, en stage Ligue 1, après, c'est des contraintes. Hein. Je pense qu'il y en a beaucoup qui aimeraient être à leur place. Mais il y a beaucoup d'appelés, plus d'élus, mais comme les joueurs pros. Hein. Beaucoup, moi aussi, je voudrais être joueur pro. Ouais, donc, du coup, tu préfères entraînement tous les jours, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. Et on est en Normandie. Donc,
et visiblement, cette semaine, c'est plutôt.
Il faut aimer le football. C'est des contraintes. Voilà.
On a déjà parlé de la sonorisation possible, hein, des échanges tout à l'heure. Mais je pense avoir compris votre avis sur la question. Mais je pose peut-être la question à Luc et à Mathieu sur l'idée que les arbitres, ils viennent aussi répondre, pourquoi pas, aux journalistes quand il y a des. Alors, peut-être pas juste après un match, mais voilà, pour expliquer davantage.
Si, juste après
on
un
a
match.
Compris que tout à l'heure, vous disiez. Il faut pas non plus, c'est pas nous qui sommes au cœur du jeu, ça reste les joueurs. Messieurs, votre avis là-dessus, est-ce qu'on pourrait, si on pouvait poser des questions comme ça en...
Ah bah ça serait pas mal, mais je trouve qu'il y a quand même un effort qui a été fait par plusieurs arbitres ces derniers temps, de déjà prendre la parole après les matchs, par exemple à Ligue 1 Plus ou même à DAZN par le passé, voilà, de faire l'effort de venir, d'être interrogé par des journalistes et d'expliquer certaines situations qui ont eu lieu durant le match. Ça, je trouve que c'est quand même plutôt louable de leur part. Après qu'ils passent en zone mixte, j'y crois pas trop quand même. Hein. Je pense qu'il y a quand même un devoir de réserve presque, je pense, qui doit s'instaurer pour les arbitres. Mais certains jouent le jeu quand même d'expliquer certaines situations d'un match.
Un arbitre en conf de presse.
Moi, je le prendrais. Enfin, je prendrais le. Je piquais la logique, visiblement, de Fred qui disait quand un joueur fait une mauvaise saison et que son club est rétrogradé, il n'est pas sûr de retrouver un contrat. Souvent, on demande au coach de venir, entre guillemets, s'expliquer après le match et aux joueurs. Les joueurs, bon, c'est pas toujours une obligation, mais à la demande, on pourrait demander à un arbitre, et sans aucun esprit d'animosité, de demander quelle a été votre réflexion quand vous avez sifflé ça, comment vous l'avez interprété, qu'est-ce que vous avez vu et tout. Alors peut-être que c'est rien que si on le faisait après chaque match, ça serait peut-être compliqué, mais en quoi, enfin, encore une fois, il n'y a pas d'animosité, mais monsieur Intel, venez m'expliquer, ou madame Intel d'ailleurs, c'est pas forcément, venez m'expliquer comment vous êtes venu à essayer, et voilà, on donne votre point de vue. C'est comme un coach, des fois, quand on n'est pas d'accord sur un truc, le coach, il dit, ben non, moi, j'estime que c'est comme ça et tout, et les gens, ce qu'ils veulent entendre, en fait, souvent, c'est même quasiment tout le temps, c'est pas l'avis du journaliste. C'est l'avis du coach, c'est l'avis du joueur, et donc là c'est l'avis de l'arbitre. Et moi je pense que c'est bien, et c'est vrai qu'il y a des progrès dans ce sens-là liés au diffuseur, parce que il y a très clairement le message aussi qu'il faut mettre en avant le diffuseur, et c'est une bonne chose. Mais on peut pousser la logique encore plus loin.
Ouais, dans une logique d'essayer de mieux comprendre certaines décisions qui ont été prises. Et là-dessus, là où je trouve il faut vraiment accélérer, c'est la sonorisation des arbitres pour que tous les spectateurs arrivent à entendre, par exemple, quand il y a une situation, après la visionnage du VAR, je prends la décision d'annuler et pourquoi. Et ça, je trouve que ça va être une étape qui doit être franchie très vite pour que justement tout le public puisse mieux comprendre certaines décisions qui ont été prises par les arbitres.
Ou au moins les téléspectateurs, parce que
Il y a aussi les spectateurs.
Il y a vraiment deux expériences différentes.
Ouais, je crois qu'au rugby,
à la télé ou dans le stade. Sur la communication, tu disais moi j'ai apprécié la saison dernière sur le classico PSG-OM, il vient à la fin du match, j'ai expulsé cette bête, le joueur de l'OM, j'ai perdu son nom, parce que effectivement quand il lève le t-shirt il a la marque de crampon là, et on n'a pas l'image à la télé, donc effectivement quand il vient à la fin il explique, c'est clair pour tout le monde. Mais si dès le départ, en fait, comme disait Luc, hop, il appuie sur son bouton exclusion du numéro X de l'OM parce que mise en danger l'intégrité physique de l'adversaire, marque de crampon sur M. Marquinhos, il y aura toujours du débat. Mais au moins, ça clôt le truc. Moi, j'ai eu la chance, pour les plus anciens, d'avoir vu le dernier match de M. Chaperon, qui était un an de PSG. Je suis quasiment sûr que si, à la fin de la rencontre, Tony Chaperon vient en conférence de presse, écoutez, je suis désolé, j'ai fait une erreur, tout le monde passe à autre chose. Ça fait trois lignes dans l'équipe le lendemain, et voilà. Là, en fait, le problème, c'est qu'il y a eu zéro communication. Tout le monde s'est enflammé. Puis derrière, écoute, désolé, Tony, on arrête là. La communication, encore une fois. Mais ça s'apprend. Et je pense qu'il faut former nos arbitres à ça. En Normandie, nous, la consigne qu'on a, c'est simple, c'est on ouvre notre vestiaire 30 minutes après le coup d'envoi. Et 30 minutes, on fait la feuille, on prend la douche. S'il y a des gens qui veulent parler, des entraîneurs directs, vous venez et on vient 30 minutes après le match. Et ça permet de déjà apaiser. Écoutez, monsieur, j'ai pas compris le rouge. On explique, pas de souci. Mais c'est la consigne qu'on a. On est obligé de l'investir 30 minutes après le match. Ce qui permet, un, de pas réagir à chaud. Dans, 80% des cas, les gars, ils viennent pas. C'est-à-dire que, faites sur le terrain. Ah, monsieur, vite. Non, écoutez, on parle après la douche. Ok. Une fois qu'ils ont fait la douche, je vais dire quoi à l'arbitre? Je vais dire que tu es pas d'accord. Il va me dire qu'il est pas d'accord. Et puis voilà. Ils viennent pas. Mais en tout cas, on a ouvert, la ligue a souhaité ouvrir ça pour que, encore une fois, on s'intègre dans la famille du football et qu'on échange. On sera peut-être pas d'accord à la fin, mais au moins on aura échangé. Et c'est ça, il faut au moins partir de là sur l'échange.
L'échange, c'est un peu le but justement de cette émission. Avant de se quitter, on va faire le tour habituel des autres formations du HAC, puisque l'équipe première ne jouait pas donc ce week-end. Fin de parcours en Coupe de la Ligue pour les féminines, malgré leur victoire 3-1 à Saint-Malo le week-end dernier. C'est Nantes qui termine en tête de la poule, on s'y attendait, et qui est donc qualifiée pour la suite. Ce week-end, les filles de Maxime Di Liberto, elles reçoivent Dijon. Ce sera samedi à 17h au Stade Océane. Puis du côté des jeunes, matchs match nul un partout pour les U19 face à Lille, malgré une expulsion dès la 18e minute. Les Havrais qui ont fait preuve d'un bel état d'esprit, ils sont 5e au classement en U17, même score, un partout face au SM Caen. Les Malherbistes qui ont égalisé en toute fin de match sur Péno. Le HAC est 6e à 3 points seulement du 2e QRM, dans un championnat qui est dominé par les jeunes du PSG. Puis les U19 féminines victorieuses 2-0 face à Valenciennes. Elles consolident leur 2e place. Merci beaucoup Fred Ortiz d'être passé à la table du débrief 100% HAC pour évoquer les hommes
Merci
en noir qui sont indispensables sur le carré vert. Podcast à retrouver sur tendanceouest.com, Deezer, Spotify et bien sûr chez nos partenaires MathieuBioFootNormand.fr. Il n'est jamais trop tard pour aller y voir votre immersion, notamment Coupe de France, IFTO, Caen.
Résumé, ouais, résumé du match.
En Coupe de France, ça, c'est en, en vidéo.
Où Luc était, du coup.
Oui.
Voilà,
tout à
donc
fait.
C'est à lire aussi dans le
premier
coup
bah, évidemment, il y aura un retour.
Luc a mouillé la chemise, si je puis.
C'est moins qu'on puisse dire.
Moi, j'avais envoyé quelqu'un, c'était plus simple.
au sens propre comme au sens figuré, le courrier cauchois qui est à retrouver, évidemment, en kiosque dès vendredi. PSG HAC, 13e journée de Ligue 1. Ce sera samedi 22 novembre à 21h05 au Parc des Princes. On verra ce que ça donne. Je vous demande pas un
petit
pronostic.
Ouais, c'est ce que j'allais dire.
Fred.
Un pronostic sur PSG Le HAC. En étant réaliste, je pense que le PSG est au-dessus. Après, par rapport aux valeurs que l'équipe a montrées ces dernières semaines, je mettrai une petite pièce sur un match nul.
Allez, pourquoi pas, comme il y a 2 ans, 3-3. un match nul aussi, messieurs.
Ah bah, s'ils font match nul au Parc, on prend tous les jours. Hein. Ça sera toujours un point bonus dans la quête du maintien.
Bon bah, ce sera l'objet en tout cas d'un prochain débrief, fin de partie. Et on se retrouve dans 15 jours.